Je vais vous parler d'orgueil et de rébellion. Je vais vous parler de ça. Non pas que j'ai décidé d'aller dénoncer dans votre vie l'orgueil, ni même la rébellion. Un ami m'a posé la question dernièrement, il m'a dit « Est-ce que je suis une personne orgueilleuse ?» J'ai dit « C'est pas à moi de te le dire. » D'ailleurs, il n'y a rien de plus qui m'énerve, moi, quand quelqu'un vient de me dire « T'as vu, t'es orgueilleux dans ce domaine. » Les couples sauront de quoi je parle. T'as vu, hein ? Ça, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand quelqu'un vient dénoncer mon orgueil. Donc, je n'ai pas la prétention de vous dire, de faire une étude théologique sur l'orgueil, la rébellion, etc. Ce n'est pas ça que je veux. C'est, un, vous faire comprendre qu'en réalité, nous avons tous besoin de travailler ce domaine. Et le but, c'est de vous définir les origines de l'orgueil, de vous parler de là où nous mène l'orgueil, à savoir la rébellion, mais de savoir qu'il y a une arme contre ça, c'est de prendre l'exemple de Christ, et que si on entre vraiment dans l'obéissance par rapport à ça, vous allez voir des choses bouger. Tout ce que je vais vous dire ici ce matin, tout a été expérimenté dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a environ 2 mois de cela, une jeune sœur, qui a 20 ans dans ces eaux-là, est venue me voir. Elle a vraiment une onction prophétique, elle vient me voir, elle me dit « Bruno, est-ce que je peux te voir ?» Je lui dis « Écoute, tu viens à la maison, puis on se met dans le salon. » Puis elle me dit « Voilà, j'ai une parole de la part du Seigneur. » Elle dit « Il faut que tu travailles ton humilité. » Elle est gonflée, la jeune. Hein. Un vieux de 56 ans qui... Et vous savez, ma réaction au départ... Non, je ne vous la dis pas, après vous allez avoir une mauvaise image de moi. Vous imaginez. Mais là, ce n'était pas elle qui parlait, c'était Dieu qui était en train de me dire « Il y a des domaines dans ta vie, Bruno, que je veux que tu travailles. » Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à faire la guerre à l'orgueil. Et donc, j'ai commencé à dire au Seigneur « Seigneur, j'aimerais bien que tu me montres quand même les domaines où j'ai encore beaucoup d'orgueil en moi. » Parce que souvent, les gens me disent ouais, « Tu es quelqu'un de humble, mais en réalité, ils n'ont pas de discernement. » Là-dedans, il y a encore beaucoup d'orgueil. Donc, j'ai commencé à faire la guerre. Et forcément, comme j'ai un bon père et que mon père sait que j'ai besoin de vivre des expériences pour comprendre à combien j'ai encore de l'orgueil, il m'a permis de vivre ces expériences-là. Vous voyez ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça. Au contraire, priez. Hein. Mais attendez-vous à ce que ça bouge derrière. Et donc, ça a commencé à bouger et je me suis dit, j'ai vécu des expériences qui m'ont permis de voir un peu l'origine, j'ai fait une étude en même temps, et puis qui m'ont permis aussi de comprendre qu'il y avait un chemin qui était le chemin de Christ, la croix, et puis enfin, qui m'ont permis de voir que dans ma vie, il commençait à se débloquer des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'en recherchant l'humilité, j'ai commencé à être de plus en plus rempli de l'Esprit. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, vous savez, le Saint-Esprit, il n'y a pas plus humble que le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit du Saint-Esprit qu'il ne parlera pas de lui-même. Il est dit du Saint-Esprit qu'il rappellera tout ce que Jésus a enseigné. Il est question, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient, il n'ira pas au-delà de ce que la personne veut lui donner. Et donc, quand j'ai de l'orgueil en moi, lui qui est humble, il se dit, oh là là, je ne peux pas prendre davantage de place. C'est-à-dire que dès lors que je fais la place vide dans ma vie en travaillant sur l'orgueil et en éliminant l'orgueil dans ma vie, je permets de plus en plus l'action de Dieu dans ma vie. Et je l'ai expérimenté, c'est pour ça que je veux vous le partager. Parce qu'il y a une clé derrière pour une vie de disciple où je serai de plus en plus rempli. Maintenant, j'invite les gens qui sont 100% humbles de quitter cette salle parce que ça ne vous concerne pas. mais je plaisante. Orgueil. La définition de l'orgueil, c'est une vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Écoutez un peu ce que vous dites. Par exemple, allez, je prends un exemple tout simple. Vous êtes au boulot, et puis vous arrivez dans une conversation qui existe déjà entre deux personnes concernant une tierce personne. D'accord ? Et puis, les personnes sont en train de dire du mal, mais ça n'arrive jamais au travail. Hein. Et les personnes sont en train de dire du mal de la personne. Et puis, comme par hasard, vous êtes un peu de leur avis. Un peu. Mais bon chrétien, vous taisez, vous allez les voir, vous leur dites « c'est pas bien ce que vous faites ». Non, parce que les trois quarts du temps, à cause de notre orgueil, parce qu'on veut passer, il y a quelque chose en nous qui va vouloir, en quelque sorte, nous placer au-dessus de cette tierce personne. Avez-vous déjà remarqué ça ou suis-je le seul ? Suis-je le seul à rester dans cette pièce ? Donc, la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Je suis désolé si je vous mets mal à l'aise hein, par rapport à ce sujet, mais il faut vraiment qu'on aborde le sujet. Il faut le travailler, d'accord ? Et puis, la rébellion, l'orgueil, retenez bien ceci, hein, l'orgueil entraîne toujours la rébellion. Toujours ! Toujours ! C'est la résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. Orgueil et rébellion sont étroitement liés, ils sont presque comme indissociables. C'est des frères jumeaux, si je puis dire. Les origines de l'orgueil. On va lire ensemble ce passage. Alors, tous les commentateurs bibliques vous diront que ce passage concerne Lucifer qui est tombé, qui est devenu Satan. D'accord ? Au départ, Satan était un ange, même quelqu'un qui avait un niveau d'autorité auprès de Dieu. Certains commentateurs disent même qu'il s'occupait de la louange de l'Église. Enfin, donc, vous voyez, il y a de la louange du ciel, bien sûr. Je fais ça pour que ce soit accessible à tout le monde. Satan était quelqu'un de... Enfin, vraiment, c'était le super louangeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il organisait la louange, etc., etc. Et voilà ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, cet être céleste, magnifique, rempli de gloire, il a fait quelque chose. On va le voir ensemble. « Te voilà tombé du ciel !» Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, et regardez bien, à chaque fois j'ai souligné ça, je monterai, je m'élèverai, j'irai. Vous comprenez ça ? Regardez bien, c'est la source même de votre problème, et donc du mien, de l'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et Satan s'est opposé à l'autorité du Créateur par désir de s'élever au-dessus de lui. Et automatiquement, dès que vous avez une personne, croyante ou non croyante, qui cherche à s'élever au-dessus de Dieu, elle s'entraînera automatiquement dans les rébellions. Automatiquement. Vous comprenez ? Ça ne restera pas juste un péché d'orgueil, comme on peut dire, mais ça deviendra quelque chose qui la poussera même à s'opposer à ce que Dieu veut. Et là, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut faire attention. Une fois, alors je ne sais pas comment vous agissez, vous, quand une parole prophétique vous est donnée. Mais vous savez, des fois, il y a des paroles prophétiques, quand elles sont données, elles dérangent. Hein. Parce que Dieu encourage parfois en nous reprenant. OK ? Et une fois, je me souviens, il y a une personne qui avait reçu une parole prophétique, une parole d'avertissement de la part du Seigneur. Et cette personne... son attitude a été claire. Elle n'a pas accepté. Donc, autrement dit, ce que Dieu pouvait lui dire, elle lui dit « Non, non, moi je me place au-dessus de Dieu. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Et puis, elle s'est dit « Bah tiens, moi, cette parole-là n'est pas de Dieu ou je ne la veux pas. C'était une parole d'avertissement, hein, claire, de la part du Seigneur. Allez, 2 ans plus tard, cette personne est tombée dans le piège dans lequel Dieu l'avertissait. Exemple, orgueil, rébellion. Donc, elle n'a pas mis les choses en place dans sa vie par rapport à ce que Dieu lui disait. Et que s'est-il passé ? Chute. C'est exactement le même schéma qui s'est passé dans le ciel avec Satan, avec Lucifer. Exactement le même schéma. Et lorsque Satan veut toucher et empêcher une personne de, en quelque sorte, recevoir et vivre ce que Dieu veut lui donner, à chaque fois, il utilisera ça. On va le voir après. L'origine de son orgueil, il est venu lorsqu'il a commencé à détourner son regard de la gloire du Très-Haut pour admirer ce qu'il était. Et regarde dans Ézéchiel 28, c'est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit, il s'est regardé dans la glace. Vous voyez, parce qu'il y a une glace au ciel dans laquelle on peut se regarder, vous ne le saviez pas. Et donc il se regarde dans la glace et puis il dit « Lucifer, t'es pas mal quand même. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se regarde dans la glace et parce qu'il a détourné le regard du Très-Haut. Tant que nos yeux sont fixés sur Dieu, sur le Créateur, tant que nous nous tournons, tant que notre cœur se tourne vers Lui, tant que tout ce que nous avons sur la terre, tout ce que nous faisons sur la terre, nous savons que ça vient de Lui, alors notre cœur reste dans l'humilité. Dès lors qu'on se dit « Oh, j'ai une belle maison. Oh, enfin, j'ai un bon job, je gagne bien ma vie. Ça, c'est le fruit de mon travail. » Attention. Je dis attention, parce que tout vient de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose et un piège dans lequel on tombe souvent. Peut-être pas vous, mais moi, oui, en toute honnêteté. Regardez comme le « je » prédomine quand même. « Je m'élèverai, je monterai, je serai, je me placerai sur, à la place sur, du trône de Dieu. » Regardez à quel point ce « je » prédomine. Cette volonté de toujours vouloir être le « je », l'égoïsme, l'égocentrisme. Regardez. Et vous allez voir que c'est tout à fait le contraire de ce que Jésus fait lorsqu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, on verra après. Je ne veux pas aller plus vite que la chanson. Il a entraîné une partie des anges dans sa rébellion, mais l'homme aussi. Et regardez, quand il va dans le jardin d'Éden, il va voir Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, etc., etc. Vous le connaissez le passage. Et il dit, mais quand tu mangeras de ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En réalité, le premier péché ne vient pas du jardin d'Éden, c'est le péché de Satan qui s'est communiqué dans le jardin d'Éden. Et il est allé montrer à Ève et dire, tu te rends pas compte, Ève, t'es quand même pas mal, t'es une belle fille, t'es intelligente. Mais vous comprenez, c'est comme ça qu'il a fait lorsqu'il est allé voir les anges pour les entraîner dans leur chute. Il est allé voir les anges et leur a dit « Eh les gars, vous êtes pas mal quand même. Moi, je trouve que l'Éternel, le Très-Haut, ne vous donne pas ce que vous devriez recevoir. » Il dit « Moi, si j'étais à la place du Très-Haut, je vous donnerais plus. » Et en fait, il prend le même schéma avec Adam et Ève, mais avec nous. Plus, connais. Vas-y, élève-toi, parce que quand tu t'élèveras, tu seras vraiment un mec super, un type super. Alors que c'est pas ça le chemin, on va le voir après. Il a réussi à faire entrer l'homme et la femme dans la rébellion en utilisant l'orgueil. Les conséquences de l'orgueil, c'est la rébellion. Puis la chute, on le connaît, hein. Ils ont chuté, rébellion, chute, éloignement de Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et on se dit que tous autant que nous sommes, le péché qui est arrivé dans nos vies par le moyen de l'orgueil nous éloigne de Dieu. Ça veut dire que qui que nous soyons, quel que soit l'homme, quelle que soit sa réussite, il ne peut pas être près de Dieu à cause de son orgueil qui l'a entraîné dans la rébellion. Mais j'ai une bonne nouvelle. D'abord, je voudrais vous parler de la puissance de quelqu'un qui commence à travailler dans l'humilité. Daniel est dans une situation où vous savez qu'il est en exil là-bas à Babylone. Et puis c'est un jeune homme, mais qui a vraiment à cœur de connaître le Très-Haut. Et puis il commence à vouloir vraiment obéir. C'est un homme intègre, hein, on peut le dire, un homme droit devant Dieu. Et peu importe la civilisation et la mentalité qu'il y avait à Babylone, je resterai intègre. En réalité, au milieu d'une génération vraiment dépravée spirituellement, c'était un homme qui se tenait devant Dieu en disant « j'obéirai l'Éternel ». C'est un homme qui avait, ce que disait Jean-Luc dimanche dernier, quand il parlait de la nouvelle naissance, il disait « lui, quand il a rencontré le Seigneur, ça a vraiment changé sa vie ». Il y a des choses qui ont bougé dans sa vie. D'accord ? Et cet homme, il était prophète, il recevait des visions. Et un jour, il reçoit une vision qui concerne le peuple d'Israël. Mais ces visions, lui, l'effraient un peu et le questionnent. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il cherche à comprendre. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Et là, vous savez ce que Daniel fait pendant 21 jours ? Il va porter le deuil. Il va s'humilier devant Dieu. Il va porter le deuil. Donc il va s'abstenir de certains aliments, il va chercher le Seigneur, etc., etc. 3 semaines, on lit ensemble maintenant. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole me fut révélée à Daniel. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaets dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin. C'est la même vision que Jean dans l'Apocalypse, au départ, vous allez voir. Ayant sur les reins une ceinture d'or, son corps était comme de chrysolite. J'ai coupé cet intermorceau. Hein. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Waouh. Je vis seule la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis de grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. J'arrête là 2 secondes. Un homme qui est anéanti, mais qui s'est humilié. Regardez, la main de Dieu le touche. La main de l'Éternel, la main du roi des rois. C'est Jésus en réalité là. On peut l'interpréter comme ça. Viens, le touche et secoue ses genoux, il secoue ses mains, il secoue l'homme et l'homme se tient debout. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais là il y a une clé. Une clé qui est évidente. Le chemin de l'humilité amène à Dieu à venir jusqu'à moi et faire en sorte que je sois relevé. C'est pas ça que dit le texte ? Vous êtes d'accord ou pas ? Ouais, il y en a 3, c'est bien. Ensuite, car je suis maintenant envoyé vers toi, lui dit le Seigneur. Je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Quelle clé extraordinaire, non ? C'est-à-dire que quelqu'un qui croit et qui commence à s'humilier devant le Seigneur, dès qu'il commence à prier, à vouloir comprendre ce que Dieu veut pour sa vie, la prière est entendue. Ça veut dire que dès lors que tu commences à t'humilier toi, et tu cherches à comprendre ce que Dieu veut pour ta vie ou pour une situation, ta prière était entendue. Alors après, vous allez me dire, il y a un petit problème, parce qu'il s'est passé 3 semaines, mais on va y venir. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, etc., de Tumis. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. À cause des paroles qu'il vient. À cause de la prière de Daniel et de l'attitude de Daniel que Dieu vient jusqu'à lui. Je sais pas, mais est-ce que vous comprenez ça? C'est un truc de malade. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Michael, c'est un archange, enfin, est venu à mon secours. Et je me suis demeuré là auprès de toi, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ce temps-là encore. Regardez. L'attitude et les prières de Daniel ont déclenché quelque chose dans le ciel. Quand je vous disais tout à l'heure que la réalité, votre réalité n'est pas ici. La réalité, elle est dans le ciel. Comprenez ce que... Bien sûr, vous êtes chez Redos, hein, attendons. Hein. Mais la réalité, elle est dans le ciel. Il y a des choses que nous pouvons déclencher dans le ciel à partir d'une attitude que nous avons sur la terre. La clé... C'est dès que. C'est-à-dire que ça ne met pas 8 jours, ça ne met pas 1 heure. Dès que Daniel s'est humilié en prenant le deuil et qu'il a cherché à comprendre, là ça a bougé. Dès que. C'est-à-dire qu'une personne, un croyant qui commence à s'humilier, qui commence à chercher Dieu, à traiter et à faire la guerre à l'orgueil, à la rébellion dans sa vie, dès que cette personne va faire des choses dans ce domaine-là, ça va bouger. Et je témoigne devant vous, mais devant la caméra, mais aussi devant les autorités célestes, c'est ce que j'ai vécu. Et je vous parle de choses concrètes. Ça a commencé à bouger dès que... Mais vous allez voir. Certes, il y a toujours une opposition satanique. Forcément, toi, t'humiliant devant Dieu, comme Satan sait que ça commence à enclencher des choses, que va-t-il faire à votre avis? Il va envoyer son armée de démons et ils vont commencer à lancer des cris. Et qu'est-ce que tu vas faire? Plutôt que de t'humilier, tu vas te boucher les oreilles. Mais, ouais, je m'humilie. Nous, nous humilions. Parce que l'humilité nous conduit à la gloire. Nous, nous humilions. Vous comprenez là, la différence d'attitude? Il y a eu 3 semaines de résistance. 3 semaines où Satan a envoyé son armée pour empêcher le Seigneur d'atteindre Daniel. Mais ça ne veut pas dire que les paroles et les prières et l'attitude de Daniel n'étaient pas entendues. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu forcément, Dieu depuis son trône a dit, il faut aller voir Daniel, cet homme vaut le coup, il cherche à comprendre la suite des temps, il a vu des visions concernant le peuple d'Israël, je veux lui montrer qu'Israël n'est pas appelé à rester en exil à Babylone, mais j'ai un projet pour lui. Et Daniel est en train de chercher à comprendre, il s'humilie, que se passe-t-il? Dieu, dès qu'il entend l'attitude de Daniel, il y va. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est-à-dire que Dieu veut vous encourager à y aller tout de suite et à entrer tout de suite dans cette attitude-là. Ensuite, Satan voulait maintenir Israël loin de son pays en esclavage alors que Daniel désirait le retour de son peuple à Jérusalem. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que l'orgueil empêche la prière de rejoindre le ciel. C'est pourquoi il est écrit... Dans le Nouveau Testament, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que vous voyez tout le temps l'apôtre Paul dire « Revêtez-vous d'humilité ». C'est pour ça, et c'est une clé. Mais c'est une clé que nous négligeons sans cesse. Parce que nous pensons que nous n'en avons pas besoin. Et que nous avons besoin, je pense, d'une révélation de l'Esprit de Dieu qui nous amène à comprendre les domaines où nous sommes encore orgueilleux. Et croyez-moi, vous le faites Dieu va vous conduire dans des situations qui vous permettront de le comprendre. Vous n'aurez même plus besoin que votre femme, ou votre frère, votre sœur, ou votre mari vous disent « t'es orgueilleux ». Dieu va vous parler directement. Ça m'est encore arrivé en voiture cette semaine. L'humilité perce le ciel et atteint le cœur de Dieu. C'est une des choses que vous devez retenir ce matin, c'est ça. L'humilité perce le ciel et atteint le cœur de Dieu. Alors, je vais vous parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'exemple parfait. Et nous voulons ressembler, pas à nos responsables d'église, mais à Jésus. D'accord ? C'est Jésus que nous, son caractère que nous voulons avoir. Et regardez, vous connaissez ce passage par cœur pour les plus anciens, hein ? D'ailleurs, c'est un passage qu'on dit souvent au moment de la scène. Vous avez déjà remarqué ça ? Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Déjà intéressant. Alors que Satan dit « je m'élèverai, je monterai » et qu'il se regarde dans la glace en disant « je suis pas mal du tout » et qu'il entraîne les autres à venir devant cette même glace et à se regarder, là, le chemin est différent. Là, c'est une attitude de dire « déjà entre nous, je suis désolé, je t'appelle ma petite, souvent, mais en fait, ma petite, c'est affectueux, hein, que les choses soient claires, ma petite est plus grande que moi. Je la regarde comme étant plus grande que moi. Vous comprenez ça ? Et ça, c'est une attitude qu'on n'a pas souvent. Vous avez peut-être pas vous, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas souvent, cette attitude-là. Et regardez, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tiens, encore un chemin dans lequel Satan n'est pas passé. Satan, c'est des « je ». C'est Bibi. Bibi, il va aller sur le trône de Dieu. Bibi, il va faire ceci. Bibi, il va faire cela. Moi, je m'élèverai, je monterai, je m'assierai. Je. Là, c'est plus le « je », c'est vous. C'est toi. Est-ce que tu te rends compte de l'attitude qu'on doit avoir ? Et même dans nos attitudes du royaume de Dieu, on en parlait, Jean-Luc en parlait la semaine dernière, on veut avoir la pensée, le caractère d'un disciple du royaume de Dieu. Et le caractère du disciple du royaume, c'est « tiens, toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est pas moi, c'est pas « m'élever moi au sein d'un peuple », mais que moi, je puisse passer par les situations peut-être les plus compliquées pour que toi, tu puisses être édifié. Quelle différence, non ? Ayez, alors là maintenant, il dit, soyez humble, regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Maintenant, il dit, je vous montrer une voie qui est quand même assez sympathique à regarder, mais qui est moins facile à vivre. C'est entre nous, faire ce que Jésus a fait, avoir les sentiments que Jésus a et avait en venant sur cette terre, même quand il était auprès de son père, qu'il a dit « je vais y aller », c'est pas du tout un chemin facile. Autrement, je suis en train de vous dire que de faire la guerre à l'humilité, faire la guerre à l'orgueil, de rechercher l'humilité, n'est pas un chemin facile. C'est plus qu'inconfortable. Merci Bruno pour cet encouragement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paf ! Il envoie déjà le scud, hein ? « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il ne dit même pas, comme dans certains passages, « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il les renvoie directement à Christ, à Jésus. Il dit « voilà, l'exemple parfait. » Il dit « lequel existant en forme de Dieu. » C'est-à-dire que Jésus était assis à côté du Père. Ils étaient avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble. Ils discutaient des jours-là. Et puis, il voit la situation de l'humanité, la création de Dieu, partir en vrille. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il dit, moi, je vais y aller. Le Père dit, t'irais bien. Il dit, moi, j'y vais. C'est-à-dire, ce que je possède ici dans la gloire, je n'en veux pas, Père. Il dit, il n'a pas cherché, point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Moi, je vous parlais de mon chien. Il est bien malade en ce moment, si vous pouvez prier cette semaine. Moi, je prie pour mon chien, là. J'ai prié pour qu'il vive jusqu'à 22 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai 22 ans. Et j'ai imposé les mains à mon chien, parce qu'on s'aime beaucoup. Mais il a beau m'aimer beaucoup, le plaisir de mon chien, vous savez, c'est de quand on fait une côte à l'os. Et puis, en plus, mon épouse n'avait pas un an en côte à l'os. Elle achète des trucs, vous voyez, il y en a pour 8 jours. Vous nourrissez de viande. Et elle revient l'autre fois, je ne sais plus, on était 4 ou 5. Je crois que la côte à l'os faisait 2 kilos, vous voyez le bazar, quoi. Je dis, chérie, il n'y en aura jamais assez. Enfin, bref. Et le plaisir de mon chien, c'est de nous voir couper la viande, bien sûr, mais surtout de voir arriver le gros nonos. Je donne... Je vais... Alors, mon chien, je peux faire ce que je veux avec. Hein. Je fais 3 fois le tour du jardin, il est à côté de moi. Hein. Et dès lors que je lui donne le nonos, le gros nonos, vous n'approchez pas. Et j'ai dit, mais c'est moi qui viens de te le donner. Il dit, la proie arrachée. J'ai compris ce que ça voulait dire. C'est que parfois, on a des gros nonos dans nos vies. Ah, c'est pas le nonos de la côte à l'os de Maryse, hein. Ils vont tous vouloir venir à la maison maintenant qu'il se fasse des vies. Invitez-vous, prenez rendez-vous avec Maryse, elle s'occupera de vous. Mais des fois, on a des gros nonos dans nos vies, des choses qu'on ne veut pas lâcher. Et réfléchis maintenant et laisse le Saint-Esprit, prie. Et tu vas voir, moi j'ai découvert mes gros nonos. Et je peux te dire qu'il y en a. Dès lors que tu laisses le Seigneur te parler. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il a dit, voilà Père, j'ai tout ici. J'ai la gloire, l'autorité, la puissance, j'ai tout. Et il dit, je vais tout abandonner et je vais m'humilier. D'abord, je vais me faire semblable à eux. En nous regardant entre nous, on s'est dit, wow, lui qui était glorieux, il descend sur terre. Mais plus encore, l'Épître aux Philippiens nous dit ici, dans le chapitre 2, qu'il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit, j'ai, Père, je suis sur le trône, j'ai, je suis le plus élevé, et je prends la décision de descendre et de faire en sorte que même ta création me crucifie pour le pardon des péchés. Le chemin de la croix, il choisit. C'est le chemin de l'humilité. Et beaucoup de gens disent, c'est de la folie ça, je ne peux pas le croire. Mais je comprends. L'apôtre Paul le dit, la prédication de la croix est une puissance pour celui qui croit. Parce que quand tu reçois le chemin de le message de la croix, tu comprends le chemin de l'humilité, qui est en réalité, on va voir après, le chemin de la gloire. Et c'est pour ça que les gens, lorsqu'ils refusent de recevoir ce message-là, et qu'ils disent « je ne peux pas, je ne veux pas y aller », c'est parce que c'est l'orgueil qui les pousse à dire « je ne veux pas quelqu'un qui était au-dessus de moi vienne donner sa vie pour moi ». C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « c'est de la folie ». C'est de la folie de croire des choses comme ça. Les incroyants, c'est de la folie. Ils disent, c'est de la folie de croire que quelqu'un puisse mourir pour tes péchés et que tu es blanchi comme la neige. C'est comme si tu disais, mais tu dois faire quelque chose, c'est pas possible autrement. Ta dette, tu dois la payer à un moment donné. Tu es sauvé, ouais, mais tu vas voir, une fois que tu seras en face de Dieu, il va te demander derrière le chèque de rallonge. Non, c'est gratuit! Parce que Christ a payé le prix et parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Et c'est un truc qui paraît tellement fou, mais c'est la réalité. C'est à nous de nous dépouiller. J'ai fait des prières dans le passé, je disais, Seigneur, humilie-moi. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Regardez, il est écrit dans un passage, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » Ce n'est pas à Dieu de t'humilier. Ce n'est pas à Dieu de gérer ton problème d'orgueil. C'est à toi de le régler. C'est toi qui dois t'humilier. C'est ce chemin-là que tu dois prendre. L'humilité conduit à l'obéissance alors que l'orgueil conduit à la rébellion, j'ai déjà dit, et l'obéissance conduit à la gloire. Maintenant, je vous ai fait un petit pense-bête pour cette semaine. Vous l'apprenez par cœur, interrogation écrite. Du coup, il n'y aura personne la semaine prochaine au culte parce qu'ils auront peur de la note. Synthèse. À gauche, Satan. À droite, Jésus. Satan détourne le regard du Très-Haut. Jésus, que fait-il ? Il garde les yeux fixés sur son Père. Et regardez, lorsqu'il était sur la terre, Jésus, que faisait-il ? Il dit, je ne fais rien, tout ce que le Père me demande de faire. Il était constamment dans une attitude d'humilité. Et regardez, là où Satan veut le toucher dans le désert, quand il le tente, soumets-toi à moi, je te donnerai la gloire. Comprenez ? Et Jésus, à chaque fois, est sur place, sous l'autorité du Père. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, il y a une attitude là qui est une clé qu'on nous devons apprendre. Et croyez-moi, on n'a pas été habitué à ça. Ah, je ne vous parle pas de prière de lamentation, c'est pas ça. De dire, voilà, quelle attitude je vais avoir maintenant. Ensuite, il recherche l'élévation, Jésus recherche l'humilité. Satan, il se rebelle, Jésus obéit. Satan est précipité, Jésus, il est élevé. Je reviens sur le texte. Beaucoup de gens cherchent l'autorité dans leur vie. Vous avez déjà remarqué ça ? Hein ? Regardez. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Ça fait tilt cette semaine en lisant le passage. Souverainement. Il a été placé à la place de roi. Tu cherches l'autorité dans ta vie ? Passe par l'humilité. Humilie-toi. Tu cherches à ce que les démons te soient soumis ? Passe par l'humilité. Tu cherches à ce que tes prières soient entendues ? Passe par l'humilité. Dieu l'a souverainement élevé. Et regardez, c'est vraiment intéressant, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu veux changer d'identité ? Passe par l'humilité. Tu as des difficultés pour trouver ton identité en Christ ? Tu es troublé parfois ? Recherche l'humilité. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voulez que je vous dise un truc ? Tous les hommes, tous les personnages dans la Bible qui ont eu cette attitude-là, il y a une discussion qui s'est engagée dans le ciel. Ça provoquait quelque chose. Daniel, il a eu cette attitude-là. Et j'imagine Dieu, depuis son trône, en train de dire, « Waouh, cet homme est intègre, il s'humilie, envoyons-lui quelque chose. » Comprenez ça ? Et ça, il savait dans le ciel comment Daniel s'appelait. Il vient vers lui, il dit, « Daniel, il savait comment tu veux apprendre, tu veux qu'on connaisse ton nom dans le ciel ? Recherche l'humilité. Tu veux que les démons connaissent ton nom ? Parce qu'il y a des démons qui ne connaissent. Vous savez, il y a des démons qui ont voulu, des gars qui ont voulu chasser des démons, je ne sais plus comment ils s'appelaient là, dans le livre des Actes. Les fils de Séba. Merci Jean-Luc. Et à un moment donné, vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent, nous, nous connaissons Jésus. C'est des gars qui cherchaient à chasser les démons comme ça. Tu sais. Et puis les démons répondent, nous, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, les gars, vous n'êtes pas sur le registre. Et là, il y a quelque chose, parce que l'apôtre Paul, il a dit à un moment donné, je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, Christ est fort en moi, est puissant en moi. Paul, il avait compris quelque chose d'essentiel. Tous les apôtres avaient compris cela. Ils avaient, pour ceux qui avaient vécu auprès de Jésus, ils avaient compris le chemin par lequel nous devions passer. Vous savez, on est dans une société de l'élévation de soi, vous comprenez ? Vous avez vu tous ces stages qui existent, deviens meilleur, deviens plus intelligent, plus de toi, Ça, tout ce qui est bâti là, c'est l'organisation et l'organigramme satanique pour créer le surhomme, le super-homme. Tout est fait pour aujourd'hui pour créer des super-hommes, des super-intelligents, etc., etc. Mais ce n'est pas ça. Satan, il a rien inventé depuis que le monde est monde, depuis que le ciel existe, enfin depuis l'éternité. Il n'a rien inventé. Il a utilisé le même schéma dans le jardin d'Éden. Il a toujours fait la même chose dans les histoires de la Bible que vous pouvez lire. Et il fait la même chose avec vous et avec moi aujourd'hui, avec notre société. Élève-toi, sois meilleur. Va dans tel stage de méditation. Tu verras, tu seras de plus en plus intelligent, capable d'affronter les difficultés. Alors que le message de la parole de Dieu, c'est « passe par le chemin de la croix ». Ça vaut le coup de faire la guerre à notre orgueil, non ? Bon, je n'ai pas été très bon sur le sujet. Est-ce que ça vaut le coup de faire la guerre à l'orgueil ? Est-ce que vous allez y aller ? Bienvenue au club. Ça va bouger. Juste un exemple. Il y a des personnes ici qui sont en réunion de prière du jeudi. Là, vous savez qu'on a commencé à faire une chose. On s'est dit, tiens, on va se mettre à un moment donné, vous savez, bon, je ne sais pas si c'est, la Bible dit qu'on doit faire connaître nos besoins à Dieu, etc., etc. Et puis, il y a Jean-Luc, hein, il y a 3 semaines, qui dit, bon, ce serait bien, je pense que vraiment, l'attitude, on parlait d'humilité, l'attitude la plus humble, c'est de dire, Seigneur, nous voici, qu'est-ce que tu veux faire ? On a commencé à faire comme ça. On est dans cette démarche-là. Je peux vous dire qu'on a commencé à voir des choses bouger. Dès lors qu'on se place en regardant le trio, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Souvent, vous avez déjà vu, je sais pas, j'espère que vous n'avez pas fait ce type de prière. Des réunions de prière où on arrive, ou des temps de prière, on dit, voilà, alors je voudrais qu'on prie pour mon chien, voilà, parce qu'il est malade en ce moment, il a une gastro-entérite, et puis il faut prier pour que... d'abord que le vétérinaire donne le bon médicament, il faut prier pour ça, etc. Non, mais vous avez déjà remarqué ça. Là, j'exagère peut-être, mais on a souvent cette attitude-là, mais en réalité, c'est une attitude où on se place au-dessus de Dieu. Et alors, si Dieu veut que ton chien meure ? Et alors, s'il veut que tu apprennes à travers la souffrance de ton chien ? Ouais, peut-être que j'ai plein de choses comme ça, vous comprenez, je délire un peu dans mes paroles, mais parfois... Il y a un chemin par lequel nous passons sur la terre qui a une signification dans le ciel et Dieu veut qu'on se mette à son écoute à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as à me dire, Père ? Qu'est-ce que tu veux ? Et ça a enclenché quelque chose. Je peux vous dire, venez, vous allez voir, libération, une véritable libération prophétique. Mais pas juste une petite parole comme ça, hein. On voit, on est en train de saisir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et on est en train de toucher à des choses qui bousculent le ciel. Et pas parce que les gens sont meilleurs, pas parce que les gens sont plus grands, parce que les personnes qui viennent, on essaye de passer par une attitude d'humilité. On s'abaisse et on se dit, Père, nous voici devant toi. Voilà, ça vaut le coup de faire la guerre. Avant de faire la guerre aux démons, il faut faire la guerre à notre orgueil.